J'entends des voix, mais peut-être c'est moi. Hein. Marc, chapitre 11, on va lire du verset 1 à 11. Donc il s'agit du texte qui nous est attribué pour aujourd'hui, en suivant l'évangile de Marc, deux ou trois dimanches par mois. Marc 11, verset 1, il s'agit de Jésus et des disciples en route pour Jérusalem. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples partirent. Ils trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qui coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur ! Le règne de David notre Père ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Aujourd'hui, comme vous savez, nous sommes le 14 avril. Et le texte que je viens de lire parle du jour des rameaux. Alors nous sommes le 14 avril, 15 jours depuis le week-end pascal, donc 3 semaines depuis le jour des rameaux. Mais le calendrier est fait ainsi. Mais pour vous rassurer et pour que personne ne soit déstabilisé, sachez qu'en 2019, le jour des rameaux a eu lieu le dimanche 14 avril. Donc soyons tranquilles, restons tranquilles. Alors ce que j'aimerais faire avec ce texte, c'est de regarder plusieurs aspects qui me parlent. Il y a d'abord l'aspect... Je ne sais pas si... Ah ben, j'ai le truc ici. Merci. Vous savez, tout dans une église peut servir. Pour tenir mes notes, j'ai trouvé une boîte de spaghettis. Il ne faut pas se laisser démonter par des petits inconvénients. Alors, ça devrait fonctionner. Voilà. D'abord, un aspect mathématique. Alors, je vous demande d'attacher vos ceintures de sécurité. Marc consacre 5 chapitres sur 16 à ce qu'on appelle la semaine de la Passion. Matthieu consacre 7 chapitres sur 28 à la semaine de la Passion. Luc consacre 5 chapitres sur 24 à la semaine de la Passion. Et Jean, il a la médaille d'or, il consacre 38% de son évangile à une semaine ou 10 jours dans la vie de Jésus. Marc, 31%, Matthieu, 25%, Luc, 21% et Jean consacre 38%. C'est pour dire que cette semaine-là est tellement, tellement fondamentale, vitale, capitale dans la vie de Jésus. Ensuite, il y a l'aspect géographique. Nous sommes juste avant la ville de Jérusalem. Et Marc mentionne deux villes ou deux villages et le mont des Oliviers. Beaucoup de textes dans la Bible parlent du mont des Oliviers, la montagne juste à côté de la ville de Jérusalem. Et vous savez peut-être, si vous suivez certaines personnalités qui sont franco-israéliennes, qui meurt, beaucoup demandent d'être enterrés au cimetière du Mont des Oliviers. Il y a 150 000 tombes aujourd'hui sur cette montagne. C'est le plus ancien et le plus grand cimetière juif au monde. Et les premières tombes datent du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui veut dire que quand Jésus arrive à Jérusalem, il y avait déjà le cimetière avec des tombes. Et ça continue aujourd'hui, le Mont des Oliviers. Mais il y a aussi deux villes, Bethphagé et Bethanie. Et le mot, ou les villes qui commencent avec le préfixe « Beth », eh bien, ça veut dire « maison de ». Je vous donne quelques exemples. Bethphagé, c'est la maison des figues. Bethanie, c'est la maison des dattes. Et dans la Bible, il y a une quarantaine de villes qui portent le nom « Beth » quelque chose. Vous savez certainement d'autres. Bethel, la maison de Dieu. Beth-Araba, la maison du désert. Beth-Emek, la maison de la vallée. Beth-Lepra, la maison de poussière. Beth-Saïda, la maison de la pêche. C'est logique, c'est sur le mont, le lac de Galilée, Beth-Saïda. Il y a Beth-Lehem, la maison du pain. Beth-Aven, Bethesda, etc., etc. Un aspect géographique qui est mentionné, et ce n'est pas juste un détail, c'est quand même important. Un aspect zoologique. Alors, qu'est-ce que c'est la zoologie? Ben, bien sûr, c'est l'étude des animaux. Et dans ce texte, il y a au moins un animal qui nous saute aux yeux. Un âne, vous l'avez remarqué, ou un ânon. Vous savez, en France, il y a plusieurs races d'ânes. L'âne du Poitou, l'âne du Berry, l'âne des Pyrénées, l'âne normand, l'âne de la province, etc., etc. Et certaines ânes, certaines races d'ânes portent une croix sur le dos. Une croix en forme de T. Tous les ânes n'ont pas une croix sur le dos. Mais certains ont une croix en forme de T. Et chose curieuse, on appelle cette croix la croix de Saint-André. Alors si vous pouvez imaginer le drapeau de l'Écosse, c'est la croix de Saint-André. Et c'est comme un X. Mais sur le dos d'un âne, c'est comme la lettre T. Alors, ne me demandez pas pourquoi on appelle ça la croix de Saint-André sur le dos d'un âne. Mais en tout cas, la vie est faite ainsi. Dans la Bible, on parle beaucoup d'âne. Ah voilà. Copie conforme de l'âne, le jour des rameaux. On parle des ânes dans la Genèse, les Nombres, Deutéronome, Juge, Job, les Psaumes, Ésaïe, Jérémie et bien sûr dans les Évangiles. Les ânes. Il y avait même un dicton à l'époque de Jérémie, 7 siècles avant Jésus. Je ne veux pas être enterré comme un âne. Quel est l'équivalent de ça aujourd'hui? Je ne veux pas être enterré comme un chien. Je ne veux pas que ma grand-mère soit enterrée comme un chien. Et à l'époque de Jérémie, c'était un âne. C'est-à-dire sans honneur. Juste. Allez, on met dans un trou comme ça. On dit aujourd'hui que les ânes ne sont pas intelligents. On dit même têtu comme âne, âne. Eh bien, les ânes sont intelligents. À Valence, il y a un pasteur retraité, Richard Doulière, qui vit avec des ânes depuis des années. Il pourrait faire un discours sur l'intelligence des ânes. Contrairement aux idées reçues, les ânes ne sont pas des animaux têtus, malgré le dicton. Et ils ne sont pas des animaux passages. Vous savez, autrefois, à l'école, quand on faisait une bêtise, on avait un bonnet d'âne. Quand on faisait des âneries, oh tiens, pourquoi on dit ânerie? Les ânes ne sont pas forcément des animaux désobéissants. En réalité, les ânes sont des animaux intelligents. Ils sont costauds, ils peuvent porter des grosses charges. On dit parfois être chargé comme une mule, comme un âne. Et les ânes ont deux moyens de défense qui nous concernent. les oreilles, ils peuvent entendre de très loin. S'il y a un danger qui arrive, les ânes entendent et peuvent réagir. Ils ont aussi des pattes, surtout des pattes à l'arrière. Si tu t'approches d'un âne par derrière, gare à vos chevilles. Même si vous avez des protège-tibias, voilà. J'ai dit cheville, je voulais dire tibia. Si vous avez des protège-tibias, ça ne servait à rien. Parce que les ânes peuvent vous les casser ou alors taper plus haut. Les ânes savent entendre des dangers. Et quand il y a un danger qui vient par derrière, elles savent se défendre. Elles savent réagir. Et puis elles savent courir. Nous, les chrétiens, on a quoi? On a deux oreilles. Est-ce que nos oreilles ont été formées pour entendre des choses qui sont parfois dangereuses ou qui ne sont parfois pas tout à fait bibliques? Est-ce qu'on arrive à toujours discerner la vérité? Quand on nous dit quelque chose, ça semble formidable. Mais est-ce que c'est biblique? Est-ce que ça vient de Dieu? Et quand il y a le diable qui nous tente jour après jour après jour, est-ce qu'on sait se défendre? Est-ce que vous savez résister au diable pour qu'il fuit loin de vous? Est-ce que vous savez vous approcher de Dieu pour que Dieu s'approche de vous? Les ânes peuvent nous apprendre plein de choses. Comment on réagit? Nous avons deux jambes et parfois on doit courir quand le diable nous tente. On doit se sauver. On doit résister. Je vais vous donner un scoop. Cette âne, je connais son nom. Ce n'est pas tout à fait marqué dans la Bible, mais je connais son nom. Je vais vous l'afficher. Oh, j'ai un peu de retard. Christophe signifie porteur du Christ, littéralement. Cette âne a porté le Christ. Et dans un sens, chaque chrétien devrait s'appeler Christophe. Parce que nous portons le Christ dans notre cœur. Nous portons le Christ, la lumière de ce monde, dans ce monde de ténèbres. Et Christ nous appelle à être des témoins, des Christophe, des porteurs de Christ. Mais ce qui est formidable, et je veux vraiment souligner cela, nous portons le Christ dans notre cœur, oui. Mais Jésus nous dit, je vous porterai jusqu'à votre vieillesse, et même au-delà. Nous avons un Dieu qui nous porte. Et nous pouvons nous jeter dans ses bras chaque fois que nous en avons besoin. Parce qu'il sait et il aime porter ses agneaux. Il sait, il aime porter ses brebis, ses enfants, tous ceux qui lui font confiance. Un aspect donc zoologique. Et puis il y a un aspect prophétique dans ce texte. Ce qui s'est passé ce jour-là a été prédit par le prophète Zacharie. Voici ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il est 40 ans, nous avions des clubs d'enfants chaque samedi dans notre quartier au Mans, le quartier des Sablons. La mairie nous a prêté une salle gratuitement, mais non, ce n'est pas gratuit. Il fallait payer 1,53€ par an comme loyer. Donc ça va, ce n'était pas trop cher. Et il y avait 35-40 enfants du quartier qui venaient tous les samedis avec la bénédiction de leurs parents, marocains, algériens, turcs, iraniens, irakiens et tout ce qu'on veut. Et un petit garçon d'origine marocaine, il a pris ça par cœur, ce verset, il y a 40 ans. Et tous les deux ou trois semaines, je prie pour ce garçon, qui aujourd'hui, il doit avoir la cinquantaine. Et j'ai prié que Dieu lui rappelle que Jésus veut être son roi. Il a pris par cœur. Et vous savez, ce qu'un enfant apprend par cœur, Dieu peut toujours le rappeler, même des décennies plus tard. Parce que la Bible est une épée. La Bible est une parole vivante qui peut parler à un cœur et transpercer un cœur. Donc, Zacharie, 6 siècles avant Jésus-Christ, a prédit que Jésus allait arriver. Et il y a une autre prophétie dans ce texte qui vient du psaume 118, comme quoi le roi allait venir. Il y a un aspect symbolique. Alors, trois remarques. Revenons d'abord à notre âne. Jésus vient sur un âne, non pas sur un cheval. Un chef militaire qui arrive sur un cheval dans une ville, il vient pour casser, pour démolir, ou alors pour annoncer sa victoire. Un chef militaire qui arrive dans une ville à l'époque sur un âne, il vient pour annoncer un message de paix. Non pas un message de guerre, ou de haine, ou de destruction, mais un message de paix. Et Jésus, il est le prince de la paix. Et il vient à Jérusalem à cette époque-là pour annoncer la paix. Les gens disaient, mais il faut instaurer le règne de David, notre père. C'est-à-dire qu'ils étaient tous descendants du roi David. Voilà, Jésus était descendant du roi David, le deuxième roi d'Israël. Mais il n'est pas venu pour instaurer un régime militaire, mais pour inaugurer le royaume de Dieu. Deuxièmement, regardez ce que font les gens. Ils prennent des branches d'olivier et de palmier, ils les agitent, ils les mettent par terre, ils prennent leurs habits, ils les mettent par terre. Les habits par terre, c'est un signe, un symbole de respect pour quelqu'un qui fait l'autorité, pour un haut dignitaire, pour un chef d'État. Respect pour Jésus. Et puis, les palmiers. Les palmiers sont un symbole de la paix. Et les lauriers, les oliviers, pardon, selon un autre texte, sont des symboles de la victoire. Jésus vient pour apporter la paix. Jésus vient pour apporter la victoire. La victoire sur nos phobies. La victoire sur nos tentations. La victoire sur le diable. Donc, ils agitent tout cela. Il y a deux jours, on revenait d'une visite en Savoie et on est passé par une ville qui s'appelle La Balme-les-Grottes. C'est dans le 38, c'est presque dans l'Ain, presque dans la Savoie, mais c'est dans le 38, dans l'Isère. Et on passe devant une voiture, je regarde, et on passe devant le monument aux morts. Et sur le monument aux morts, il y a une branche de palmier, vert, dans la pierre. Et je me suis dit, ça c'est intéressant. On ne voit pas ça sur tous les monuments aux morts. Et un de mes passe-temps, c'est de visiter des monuments aux morts et des cimetières des militaires. Bon, je le confesse, hein, c'est pas un crime, c'est pas un péché, mais je m'y connais en monuments aux morts. Et c'est le seul que j'ai vu avec une branche de palmier. La paix, la paix. Et oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas avant de me confier en lui. Le 3 septembre 1944, à Lyon, vous savez ce qui s'est passé? C'était la libération. Et tous les Lyonnais étaient dehors quand les militaires français sont passés. Et qu'est-ce qu'ils agitaient? Est-ce qu'ils avaient des palmiers, des feuilles d'olivier? Des drapeaux tricolores, la victoire. Quelques jours plus tôt, en août 44 à Paris, lorsque les Américains sont arrivés pour libérer Paris avec le général de Gaulle, qu'est-ce qu'ils avaient? Tous les gens qui étaient là, des drapeaux français, des drapeaux américains, pour dire victoire. Et pour le peuple là, il disait, ça y est, Jésus vient pour la victoire. Mais pas pour la victoire militaire. Mais Jésus vient pour la victoire spirituelle. Et puis, qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là? Eh bien, ils disent, d'ailleurs, Luc nous dit qu'ils étaient saisis de joie. Ils louaient Dieu pour les miracles dont ils étaient témoins. Et ils ont crié, Hosanna. Si vous connaissez le Nouveau Testament, il y a plusieurs mots en langue étrangère qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Anathème, Maranatha, Talitha Koumi, Rabouni, Ephata. Et dans l'Ancien Testament, il y a aussi le mot « Selah », 74 fois dans l'Ancien Testament, qui veut dire « pause », qui veut dire « arrête, écoute, réfléchis ». Ici, nous avons le mot « Hosanna ». Et « Hosanna » veut dire tout simplement « sauve-nous ». « Délivre-nous ». Ce n'est pas vraiment un chant, un cri de louange, c'est plutôt une prière. « Seigneur, délivre-nous ». Nous avons une petite fille qui est ici ce matin et son papa voulait l'appeler Hosanna. Il a dû négocier avec notre fille. Et je ne vais pas dire qui a gagné, mais son deuxième prénom, c'est Hosanna. Dieu délivre-nous. Et puis il y a aussi un aspect économique. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il est écrit que Jésus vient au temple, il regarde, il réfléchit, et le lendemain, il agit. Le lendemain, il casse, renverse les tables, parce qu'il est contre le commerce, non pas contre le commerce, mais il est contre le commerce où on se fait de l'argent sur le dos des autres. C'est tout un sujet, lorsque Jésus vient au temple. Avec les voleurs. Il dit, c'est une maison de voleurs, mais la maison de mon père, c'est une maison de prière. Au lieu de prier, les gens volaient les autres. Donc, un aspect économique, ce n'est pas un péché de faire du commerce, mais c'est un péché d'agir de la sorte dans le temple, lorsqu'on doit être là pour prier. Et Jésus était conscient de cet aspect économique, mais ça, c'était pour le lendemain, donc je crois que dimanche prochain, la personne qui prêche va en parler. Et il y a aussi, bien sûr, l'aspect théologique. Ce jour-là, les gens disaient, bénissez, béni. Et quelques jours plus tard, les gens disaient, crucifie. Le jour du rameau, on veut Jésus. Un jour, une semaine plus tard, on ne veut pas Jésus. On veut César. On veut que tu libères Barabbas, un criminel, pour que Jésus soit crucifié. Ce jour-là, les gens se réjouissaient. Quelques jours plus tard, les gens se moquaient. Ce jour-là, les gens disaient, sauve-nous. Une semaine plus tard, les gens disaient, sauve-toi, si tu es le roi. Si tu es le fils, allez, montre-nous, sauve-toi. Un aspect théologique. Jésus est devenu malédiction pour nous délivrer de la malédiction. Et puis, en dernier lieu, il y a un aspect pratique ou pragmatique. Si vous habitiez à Jérusalem ce jour-là, comment est-ce que vous auriez réagi? Je propose qu'il y ait peut-être trois réactions possibles, au moins trois. Si vous étiez là, peut-être vous sortiriez devant votre porte, sans palmier, sans mettre vos manteaux par terre, et vous allez être complètement indifférent devant la venue de Jésus. Je suis sûr qu'il y avait des gens comme ça à l'époque. Si Jésus venait dans votre ville aujourd'hui, comment est-ce que vous risqueriez de réagir? Tête baissée, bras croisés, porte fermée, la porte de votre maison ou la porte de votre cœur? Ou alors il y a d'autres personnes qui ont entrouvert la porte et qui ont salué un peu timidement comme ça. Si Jésus venait dans votre ville, dans votre rue, est-ce que vous auriez envie d'entrouvrir la porte, vérifier que les voisins ne regardent pas? Et puis, juste, salut Jésus. Ou si Jésus venait chez vous, est-ce que vous auriez envie d'ouvrir les deux portes et de sortir et de saluer de tout votre cœur? Quitte à dire, Jésus, viens chez moi. Viens dans ma maison. Jésus s'est invité chez Zachée. Et il veut aussi que nous l'invitions dans notre maison, dans notre cœur. Est-ce que nous sommes enthousiastes? ou est-ce que nous sommes tièdes? Ou est-ce que nous sommes fermés? C'est possible de venir au culte dimanche après dimanche tout en étant fermé. Mais Jésus veut nous aider à ouvrir ce verrou, cette porte de notre cœur. Je pense à ce vieux chant qui dit « Viens dans mon cœur ». D'ailleurs, c'est un chant que j'ai chanté le jour de ma conversion, il y a plus de 50 ans. « Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, Jésus. Viens prendre toute la place, viens dès ce jour, viens pour toujours, oui, viens dans mon cœur, Jésus. » On peut prier comme cela pour se convertir, on peut prier comme cela pour se reconsacrer au Seigneur, après un coup de mou, après un coup de froid spirituel, après un coup d'éloignement. On peut ouvrir notre cœur de deux bâtons pour dire, « Seigneur, viens, j'ai envie de toi, j'ai besoin de toi. Viens me pardonner, viens me prendre. » Un aspect pratique. Dieu nous demande d'ouvrir notre cœur jour après jour, déjà vers lui et vers les autres. Si Jésus venait chez nous ce soir, comment est-ce que nous réagirions? Prions.